Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 18h à Luanda et à Belgrade, une heure de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
À la une de l'actualité, ce nouvel appel au cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Le président angolais exhorte les parties en conflit à déposer les armes à partir de ce soir minuit. Ni Kinshasa, ni l'AFC M23 n'a pour l'heure réagi. Les détails dès le début de cette édition. Nous serons aussi en direct de Belgrade dans ce journal, la capitale serbe, où des dizaines de milliers de manifestants ont convergé cet après-midi. Il s'agit, nous le verrons, d'une nouvelle étape dans la mobilisation contre la corruption dans le pays. Et puis, la guerre en Ukraine, au menu cette fois d'une réunion virtuelle organisée par Londres. Vous l'entendrez, au sujet d'une trêve, le Premier ministre britannique assure que la balle est dans le camp de la Russie. Nouvel appel à la paix du président angolais. João Lourenço a exhorté ce samedi les parties en conflit dans l'est de la RDC à observer un cessez-le-feu, et ce, dès ce soir minuit. Selon un communiqué de la présidence angolaise, cette trêve doit inclure l'arrêt des attaques contre les civils et l'interdiction d'occuper de nouvelles positions. L'initiative angolaise donc vise à faciliter les discussions directes qui sont prévues mardi prochain à Luanda entre Kinshasa et l'AMC M23. Pour l'heure, les dernières tentatives de négociation ont toutes échoué. Le dernier cessez-le-feu en date, c'était en août dernier. Il n'avait pas été respecté, et ce malgré un accord pourtant signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'Angola. Alors, Patient Ligodi, la méfiance reste grande tandis que les combats se poursuivent sur le terrain.
Pendant cette trêve, les belligérants sont appelés à cesser le combat, à protéger les civils et à ne pas avancer sur de nouvelles positions. L'objectif, selon la facilitation angolaise, est d'éviter toute escalade avant l'ouverture des pourparlers de paix. Pour sa part, Kinshasa ne s'est pas encore officiellement prononcé sur l'appel de Luanda, et de son côté, l'AFC M23 affirme respecter un cessez-le-feu depuis mars 2024, se défendant de ne réagir qu'en cas d'attaque. Une version contestée par les autorités congolaises. Sur le terrain, la situation reste tendue. Au sud Kivu, à Chirunga, dans le territoire des Kabare, les combattants de l'AFC M23 sont signalés depuis vendredi. Des affrontements sporadiques ont été rapportés. En Nord Kivu, des tirs ont encore été entendus hier dans la zone des Kachébéré, dans le territoire de Walikale. La question du cessez-le-feu et de ses modalités sera aussi discutée le 17 mars à Harare. Une réunion des ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC doit établir un cadre plus contraignant.
À précision signée Patient Ligodi. Les États-Unis ont donné 72 heures à l'ambassadeur sud-africain pour quitter Washington. Une nouvelle illustration des tensions diplomatiques entre les deux pays. Alors que Donald Trump avait déjà signé un décret interrompant formellement toute aide américaine à Pretoria, l'ambassadeur sud-africain est donc désormais déclaré persona non grata à Washington. Le diplomate est accusé de nourrir la haine raciale envers les États-Unis et envers le président Trump. Il avait qualifié la politique du républicain de politique de suprématie blanche. Toujours sur le continent, ces pénuries d'eau à Bangui. Le phénomène marque chaque saison sèche dans la capitale centrafricaine, mais il est aggravé cette semaine par une panne électrique majeure, un blackout également de l'autre côté du globe sur l'île de Cuba. Les autorités ont indiqué ce samedi matin que des circuits parallèles avaient été mis en place dans diverses provinces, et ce pour fournir de l'électricité aux secteurs prioritaires et à certains quartiers. Une marée humaine à Belgrade pour une manifestation sous haute tension. La présence policière est importante dans la capitale serbe, où des dizaines de milliers de personnes ont convergé cet après-midi. Munis de sifflets et de drapeaux, les manifestants se sont retrouvés devant le Parlement du pays. Un rassemblement d'ampleur plus de 4 mois après l'effondrement meurtrier d'un auvent de la gare de Novi Sad. Laurent Ruy, vous êtes notre correspondant à Belgrade. Laurent, cette manifestation acte une nouvelle étape dans la mobilisation contre la corruption en Serbie.
Oui, effectivement, et on peut même dire que des dizaines de milliers de manifestants continuent d'affluer à Belgrade, puisque les autoroutes sont toujours bouchées, les voitures garées déversent un flot continu de contestataires qui se dirigent ensuite vers le Parlement en plusieurs marées humaines qui bloquent toutes les grandes avenues. au centre, où il y a déjà des dizaines de milliers de manifestants, peut-être même plus de 100 000, puisqu'il semblerait que la masse de manifestants soit plus importante que lors de la grande manifestation de 100 000 personnes d'il y a un peu plus d'un mois. L'ambiance est bonne enfant, mais déterminée. Les étudiants demandent la fin de la corruption, mais la foule, elle, veut la fin du régime du président Vučić au pouvoir depuis 13 ans. Lui, au contraire, refuse toute concession. Encore cet après-midi, il s'est dit prêt à résister à toute pression et à toute attaque. Ce discours martial qui chauffe ses partisans à blanc a une fois de plus entraîné un incident violent, puisqu'un véhicule a foncé dans la foule, causant 3 blessés. Par ailleurs, la police a saisi des armes blanches et procédé à 13 arrestations ce matin. Les journalistes étrangers ont aussi été interdits d'entrer dans le pays. Alors, le bilan, la manifestation devrait s'arrêter normalement vers 21h, mais compte tenu de l'afflux continu, il faut s'attendre à ce que la contestation dure beaucoup plus longtemps.
Laurent Ruy, en direct de Belgrade pour RFI, merci à vous. Volodymyr Zelensky accuse Vladimir Poutine de mentir sur les conditions d'application d'une trêve en Ukraine. L'instauration d'un cessez-le-feu de 30 jours proposé par Kiev et Washington n'est pas compliquée à marteler le président ukrainien. La balle est dans le camp de la Russie. De son côté, surenchérit le premier ministre britannique, et ce à l'issue d'un sommet virtuel organisé avec une vingtaine de dirigeants alliés de l'Ukraine. Un moyen pour Keir Starmer de presser donc la Russie à accepter un cessez-le-feu.
Une fois de plus et sans l'ombre d'un doute, le président Zelensky a prouvé que l'Ukraine est dans le camp de la paix. Il a accepté un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours, mais Poutine essaye de faire traîner les choses. Tôt ou tard, Poutine devra s'asseoir à la table des négociations. C'est le moment que les armes se taisent, que cessent les attaques barbares contre l'Ukraine une bonne fois pour toutes et qu'un cessez-le-feu entre en vigueur. Nous avons convenu de continuer à accroître la pression sur la Russie, de continuer à fournir de l'aide militaire à l'Ukraine et de continuer à renforcer les restrictions sur l'économie russe afin d'affaiblir la machine de guerre de Poutine et l'amener à la table des négociations. Nous allons donc maintenant passer à une phase opérationnelle. Nos responsables militaires se réuniront jeudi prochain au Royaume-Uni pour mettre sur pied des plans solides afin de soutenir un accord de paix et de garantir la sécurité future de l'Ukraine.
Keir Starmer, qui vous l'entendiez, a annoncé une nouvelle réunion des responsables militaires des pays alliés de Kiev. Réunion donc prévue jeudi, cette fois au Royaume-Uni, pour donc concrétiser les plans évoqués cet après-midi. Et dans ce contexte, les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour taxer de nouveaux produits agricoles russes et biélorusses. Après les céréales ou les oléagineux, ce sont notamment les engrais qui vont subir des droits de douane. La décision doit encore être validée par le Parlement et le Conseil européen, mais elle inquiète les céréaliers très dépendants de ces produits. Nicolas Feldman, plus d'un quart des engrais utilisés en Europe sont importés de Russie.
Avec tout en haut des préoccupations des céréaliers français, les engrais azotés, des engrais produits à bas coût par la Russie grâce à ses réserves de gaz abondantes, les surtaxés menacent toute une filière, alerte Philippe Ezel de l'Association Générale des Producteurs de Blé et de Céréales, l'AGPB.
Sans engrais azotés, il est difficile de produire une céréale de façon concurrentielle. Si on augmente le coût de ces engrais, eh bien notre coût de production des céréales augmente très fortement. Or, on ne peut pas le répercuter sur le marché.
Pour amortir le choc, Bruxelles prévoit que cette hausse des taxes soit progressive, étalée sur 3 ans. Mais cette décision, qui doit encore être validée par le Parlement et le Conseil européen, se fait déjà ressentir sur les cours de l'engrais.
Un engrais azoté de base, on a pris 30% rien qu'à la rumeur de l'annonce de cette taxation des engrais russes. Alors si elle devait se mettre en place, on est à peu près sûr que le marché va se tenir à des niveaux très très élevés. C'est notre crainte principale.
Pour compenser ces nouvelles taxes, la filière avance une piste: réduire ou même supprimer les droits de douane existants sur les engrais importés des marchés concurrents de la Russie, qu'il s'agisse de l'Égypte, de l'Algérie, de Trinidad et Tobago ou encore des États-Unis.
Nicolas Feldman du service économie de RFI. Et puis le fondateur de Telegram a quitté la France avec l'autorisation de la justice. Mis en examen en août dernier pour complicité d'activités criminelles, Pavel Durov a donc pris l'avion pour Dubaï aux Émirats Arabes Unis où est basée son entreprise. Le fondateur de la messagerie cryptée avait été arrêté en août dernier près de Paris. Paris où il est 18h, bientôt passé de 10 minutes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous.